protéines végétales, protéines animales, c'est 67 % des Canadiens qui veulent atteindre un équilibre. Puis c'est un équilibre ou c'est une recherche d'équilibre qu'on ne voit pas aux États-Unis. Donc, il y a une réelle réflexion des consommateurs canadiens à vouloir atteindre un équilibre entre les protéines végétales puis les protéines animales.
Francis Parisien, avec ses collègues de la Maison Nielsen, étudie les marchés depuis une quinzaine d'années. Selon les données dont il dispose, il croit que la tendance voulant qu'on se préoccupe des protéines est beaucoup plus que passagère.
Il y a 5 ans, il n'y a pas personne qui aurait parlé de protéines à une présentation comme celle que je fais aujourd'hui. Soudainement, tout le monde parle de protéines. On parle de grillons, on parle de protéines végétales, on parle de protéines animales. En fait, si on regarde les recherches, on le voit, là, ça a explosé dans les derniers mois. C'est 53 % des Québécois et 51 % des Canadiens qui nous disent « consommer des protéines à tous les repas ». Je discutais avec des collègues de travail. Je fais le même travail il y a 5 ans passés. Personne n'aurait répondu « Oui, je sais que je consomme des protéines à tous les repas ». C'est réellement quelque chose qui est apparu dans la façon de consommer des Canadiens et des Québécois. C'est une bonne nouvelle pour vous. Quand on leur demande « Est-ce que la source est importante de protéines? », c'est 31 % des Canadiens qui nous disent « Ouais, je cherche telle source de protéines pour chaque repas ». Puis les Canadiens suivent leur consommation de protéines de façon quotidienne. La première source de protéines des Canadiens, ça reste la viande. 82 % des Canadiens identifient la protéine de viande comme étant leur première source de protéines, et ainsi de suite. Bonne nouvelle pour vous, les œufs se retrouvent troisième à 63 %. Puis on le voit également des protéines alternatives apparaître. C'est pas très élevé, mais quand même, on le voit, ça reste niche pour l'instant, mais il y a quand même de la croissance dans les substituts de viande, les breuvages non laitiers ou les suppléments de protéines. Au Québec, c'est 18 % des foyers qui abritent un flexitarien, donc quelqu'un qui cherche à manger moins de viande ou qui décide d'être vegan ou végé. En fait, on évalue que les vegans, c'est 2 % des Québécois, les végés, c'est 6 % et les flexitariens feraient la différence là, à 10 %. On le voit, il y a une tendance vraiment à aller vers différents styles de consommation de produits. Puis on le voit, il y a également une tendance vers le bio. Pourquoi vous parlez de bio? Je sais ici qu'il y a des producteurs de poulet bio, d'œufs bio, de dindons bio. Il y a 5 ans, les gens nous disaient « Ouais, je mange bio », personne n'en achetait. Là, cette année, on voit la tendance, on voit la croissance. Ça s'avère être... en fait, ça suit l'élection de Québec solidaire. Là, les gens s'intéressent à l'environnement, on dirait, ou à leur alimentation. Puis il y a réellement un engagement vers les produits bio. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs parmi vous. Donc, on le voit, je le disais tantôt, c'est 41 % des Québécois qui veulent diminuer leur consommation de viande. Il n'y a pas beaucoup de Québécois là, à 5 % qui nous disent « je veux en consommer plus ». En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Le 11 % des œufs se retrouvent ici. On le voit, c'est plus vers les protéines alternatives que les gens vont se tourner ou de poisson pour consommer plus de protéines. Donc, il y a un désir d'atteindre un certain équilibre, puis on va en parler tantôt, mais c'est quand même une réalité que vous devez prendre en considération. Quand on parlait de protéines végétales, je vous rappelle, on parle de 7 % du marché. Il y a de la croissance aux noix, aux substituts de produits laitiers, mais surtout aux substituts de viande à 22 %. Juste pour vous donner une idée, là, on parle ici de 30 % de croissance pour le fromage non laitier, et puis le lait de pois chiche ou le lait d'avoine, 241 % de croissance. Donc, c'est réellement des tendances qui se confirment et puis qu'on observe dans le marché présentement. La tendance des substituts de viande, AEW l'a bien compris, ça fait 2 fois à travers le Québec qu'il manque de burger Beyond the Meat. Je mets au défi ceux qui n'ont pas essayé de le faire. C'est très difficile de voir la différence entre un burger Beyond the Meat et un burger de viande, et je ne suis pas végétarien. Juste au niveau de la substitut de viande, c'est 22 % de croissance comparativement à l'année dernière. C'est des petits volumes, mais quand même, ça confirme qu'il y a une tendance dans le marché vers ces nouveaux produits.
La croissance globale des protéines végétales sur le marché est rapide, mais qu'en est-il spécifiquement de l'impact de ce mouvement sur les secteurs des œufs et de la volaille?
On parle beaucoup de protéines végétales présentement. Il y a un gros buzz autour des substituts de viande et puis des produits véganes et végétaliens. Ça reste petit comparativement à vos protéines. Donc, on parle ici de 7 % versus 93 %. Sauf que la croissance présentement, elle vient des protéines végétales à 3,6 % au Canada, 3 % au Québec, alors qu'il y a moins de croissance dans les protéines animales. Si on regarde spécifiquement les protéines animales, on les divise par sous-groupes. La viande fraîche, dont vous faites partie, c'est un peu plus difficile, à 0 % de croissance. Il y a même des déclins au Québec. Après ça, la viande transformée, après avoir atteint un creux après les crises de l'hystériose, on le voit là qu'il y a des augmentations de vente à ce niveau-là. Le poisson qui va bien, les produits laitiers également. Mais les œufs, bonne nouvelle pour les producteurs d'œufs ici dans la salle. Les œufs connaissent une très bonne croissance, puis on va le voir pourquoi tantôt. Donc, on le voyait tantôt, la viande transformée en croissance, puis la viande fraîche qui est flat. C'est le porc qui paye un peu plus présentement, et puis le veau, le bœuf, le poulet. Le poulet, en fait, bonne nouvelle également pour les producteurs de poulet dans la salle. Le poulet est la catégorie de viande fraîche qui connaît le plus de croissance présentement au pays. Si on regarde au Québec, un petit peu moins de croissance pour le poulet, beaucoup plus de déclin pour le porc et puis le veau, même un déclin au niveau du bœuf. En fait, si on regarde vos trois catégories, là, parce que Nielsen segmente ça en catégories, on regarde le poulet, les œufs, la dinde, c'est 3,4 milliards de ventes au Canada. C'est quand même assez gros, c'est 3 % du marché. Et puis on le voit, c'est une croissance partout à travers le pays, avec un emphase là, sur l'Ontario qui est déjà surdéveloppé. Donc, le Québec, avec un indice de 85 %, ça veut dire qu'on est en deçà de la part de marché qu'on devrait s'attendre. Donc, il y a un potentiel de vendre plus de vos produits. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là, il y a de la croissance dans vos catégories. Si on regarde le poulet, c'est 62 % des ventes de ce qu'on vient de voir, c'est une croissance de 4 %. Sous-développement au Québec, donc il y a des opportunités de vendre plus de poulet dans la belle province, mais on le voit, il y a de la croissance partout. Si on regarde les différents segments du poulet, on le voit là par importance, la poitrine, la cuisse, le poulet entier. Il y a la croissance dans chaque segment, sauf le poulet transformé à la fin. Donc là, des bonnes nouvelles également. Si on regarde les œufs, c'est 30 % des ventes de ce qu'on regardait du 3,3 milliards tantôt. C'est là qu'il y a de la grosse croissance. C'est 8 % de croissance comparativement à l'année dernière. Donc, des très bonnes nouvelles. Il n'y a pas vraiment de sous-développement. Il y a un surdéveloppement au niveau de la Colombie-Britannique. Mais il y a une très belle croissance présentement en Ontario. Puis, si on regarde les différents segments, on s'entend, là, le segment bio, c'est très petit, puis les œufs de spécialité, c'est également très petit. Mais on le voit, c'est là qu'il y a le plus de croissance présentement au pays. Nous, on pense, je refais la même présentation l'année prochaine, puis la catégorie serait autant en croissance. Pourquoi? C'est 11 % des Canadiens qui nous disent, écoutez, je veux consommer plus de protéines, puis je vais le faire en mangeant des œufs. C'est des très bonnes opportunités, juste là, de parler de cette consommation de protéines-là aux consommateurs. Il y a probablement un angle de marketing ou de publicité à utiliser juste là. Puis on le voit, c'est les consommateurs plus jeunes, là, c'est 18 % des consommateurs de 35 ans et moins qui veulent consommer plus d'œufs pour augmenter leur consommation de protéines. Puis il y a également une opportunité au niveau des consommateurs immigrants. 20 % des Chinois nous disent vouloir consommer plus d'œufs. Même chose pour les Noirs, les Asiatiques du Sud-Est. Donc, juste là, si on ne vise pas ces groupes-là, on manque des opportunités. Il y a également une opportunité autour du déjeuner au Québec. C'est réellement au Québec qu'on mange le moins d'œufs pour déjeuner. Ce qui est malheureux parce que, à travers le Canada, on est les plus grands groupes de déjeuneurs. Non, ça ne se dit pas. 44 % des Canadiens prennent le temps de déjeuner à chaque matin, assis à la table avec leur famille. Ça peut vous paraître bas, mais si on compare des autres provinces, comme par exemple le Canada, qui n'est pas une province, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est 32 % des Canadiens qui font la même chose. En Ontario, on est à peu près 30 %. Donc, c'est peut-être pas beaucoup de monde que ce soit pour déjeuner, mais c'est quand même au Québec qu'il y a une plus belle opportunité de parler à des gens qui veulent déjeuner. On n'est pas né pour un petit pain au Québec, on est né pour un pain, tout simplement. 28 % des Québécois mangent du pain à tous les jours versus 15 % des Canadiens. Encore là, il y a quelque chose à faire sûrement. 35 % des ventes de pain préemballé se font au Québec. Donc, vous le voyez, il y a une habitude de déjeuner qui n'est pas bien cernée qu'on pourrait utiliser là ici pour vendre plus d'œufs. Je finis ça avec la dinde. La dinde, j'ai des moins bonnes nouvelles. Dans l'Ouest canadien, on le voit, il y a des déclins. Il y a eu des déclins dans la dernière année. L'Ontario reste surdéveloppé avec une légère croissance de 2 %. Mais le Québec, c'est pas dans nos habitudes de manger de la dinde, malheureusement, pour les gens qui produisent de la dinde dans la salle. En fait, on consomme 30 % moins de dinde qu'on devrait en consommer si on considère notre importance dans le marché canadien. Mais il y a de la croissance, donc il y a des bonnes nouvelles là. Il y a peut-être des nouvelles utilisations. Et la dinde, je ne suis pas obligé de vous dire, c'est beaucoup Noël. Et puis, l'action de grâce. Donc, il faut voir là, ce qui peut se faire au niveau de la dinde au Québec pour augmenter les ventes là. Je voulais juste donner une idée de l'importance de votre industrie dans le marché. Donc, on parlait du 3,4 millions de tantôt. Si on additionne le poulet surgelé, le poulet cuit en magasin, les wings surgelés, le poulet d'Elie puis la dinde surgelée, on parle de 4,8 milliards de dollars. C'est 6,6 % du marché et puis c'est 4 % de croissance. Donc, c'est important et vous devriez garder ça en considération.
De façon générale, le marché de l'alimentation au Canada a connu un regain ces derniers mois. Après une pause, si on veut, les ventes sont reparties à la hausse.
On est présentement dans un marché qui vaut presque 1 trillion de dollars. En fait, les ventes du Canada, c'est 88 milliards de dollars. Le Québec, on est 24 % de ces ventes-là versus une population de 22,6. Donc, on est surdéveloppé au niveau de ces ventes-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a de la croissance. Si j'avais fait cette présentation-là il y a 6 mois, on aurait des déclins. Présentement, des bonnes nouvelles. L'été a été très bon pour les supermarchés et puis l'ensemble des réseaux. On est à 2,3 % de croissance. Et puis, on le voit ici, là, à travers les provinces, l'Ontario est à 3,1, ce qui est des bonnes nouvelles parce qu'on était en déclin il y a 6 mois. Colombie-Britannique, il y a toujours de la croissance dans l'Ouest. On voit que ça a ralenti comparativement à l'année dernière, mais on le voit, il y a du vert partout. Si on regarde à travers les réseaux, on le voit qu'il y a de la croissance partout. Sauf dans les supermarchés, c'est eux qui paient le prix, en fait, de beaucoup de pression qu'il y a présentement sur les consommateurs. Les pharmacies, les clubs entrepôts, les mass merch, les magasins à 1 $, moins pertinent pour vous, c'est certain. On le voit, il y a de la croissance partout, autant au Québec qu'au Canada. Des catégories clés, cependant, qui ont un petit peu plus de difficultés. Le lait, c'est pas surprenant. C'est une catégorie que depuis 2-3 ans qu'on le voit, sont en déclin dans le marché. Le pain, le yogourt, le porc. Si je faisais cette présentation-là au porc chaud organisé par la CNAQ, ça serait des moins bonnes nouvelles. Mais on le voit pour le poulet, ça va bien. Plus 4. Les œufs, plus 6. La crème glacée, plus 10. Faites de la crème glacée aux œufs, ça serait merveilleux. Peut-être une bonne idée. Mais quand même, ce qu'il faut comprendre présentement dans le marché, puis on en parle de plus en plus, c'est que la croissance, ça ne vient pas des gros joueurs. Donc, les 20 gros joueurs, là, on parle de P&G, on parle de Unilever, c'est pas eux qui mènent le marché présentement. C'est non plus des 20 à 80 par la suite. C'est des petites marques qui mènent la croissance présentement dans le marché. On le voit, là, à 5 % de croissance. Je vais également porter votre attention sur les marques privées à 3,5 % de croissance. Pourquoi? Parce que c'est super important dans vos catégories. Donc, je le disais tantôt, quand on regarde au Québec, vous allez voir des marques ici qui vendent du poulet ou qui vendent de vos produits connaître des très bons taux de croissance, autant dans le marché canadien que dans le marché québécois. Donc, c'est très encourageant de voir ce désir de la population d'aller vers des plus petites marques et voir le désir des détaillants de choisir ces petites marques-là pour se différencier. Ça offre des opportunités à des plus petits producteurs. Je te parlais de la marque privée. La marque privée, c'est important de comprendre ce qui se passe dans la marque privée. Il y avait de la grosse croissance pour plusieurs catégories. On le voit, la marque privée augmente. Pour les œufs, c'est 54 % quand même des ventes qui se font en marque privée. Sauf que la marque nationale connaît plus de succès présentement. On le voit à plus 10. Mais quand même, les deux secteurs sont en croissance. Donc, des bonnes nouvelles au niveau des œufs présentement.
Cependant, certains phénomènes parallèles viennent modifier le portrait du marché. Les habitudes des consommateurs changent. Par exemple, ils fréquentent davantage les restaurants, ils vont moins souvent en magasin, mais ils aiment toujours beaucoup les spéciaux, les rabais.
Présentement dans le marché, puis nous, ça nous inquiète un peu quand on parle aux détaillants ou avec des manufacturiers, des fabricants, il y a une baisse présentement du nombre de visites faites par les foyers. Et puis c'est une baisse généralisée. On la voit au Québec, mais on le voit également à travers le Canada. Ce qui se passe, c'est que les milléniaux vont de moins en moins, soit dans les épiceries ou les pharmacies. Les mass merch, c'est une anomalie présentement. Il est en déclin là, depuis les 4 dernières années. Les clubs entrepôts, ici, on parle de Costco. Costco, c'est présentement le détaillant qui connaît le plus de croissance au pays. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté là, vous êtes assis. Mais présentement, Costco réussit à gagner des parts de marché partout dans chaque province. Donc, je le disais tantôt, il faut blâmer les milléniaux pour cette baisse du nombre de visites-là. Comme vous pouvez le voir, là, entre un foyer milléniaux à 116 visites par année ou une grande génération, là, qui serait mes grands-parents, à 193 visites, il y a quand même 80 visites de moins. Mon grand-père, lui, il partait faire ses courses pour voir ses voisins puis jaser. Clairement, les milléniaux, ils ont moins le temps de faire ça. Et puis, c'est une tendance qui ne change pas. Ça fait 5 ans qu'on suit cette tendance-là. Puis, les milléniaux, même s'ils ont des enfants, ils ne vont pas plus dans les supermarchés. Donc, réellement, c'est 233 millions de visites dans les 5 dernières années qu'on a vu baisser. Ce que ça veut dire, en fait, ce qu'on explique derrière cette baisse-là, là, c'est peut-être des bonnes nouvelles pour ceux qui travaillent avec les restaurants. Donc, il y a une hausse du nombre de visites dans les restaurants. Donc, c'est ce qui expliquerait la baisse, entre autres, dans les réseaux là, où vous vendez vos produits. Pourquoi je vous parle de ça? Il y a deux constats super importants. Le nouveau concept de PharmaPrix. J'ai pas une fixation sur PharmaPrix ou Shoppers Drug Mart, croyez-moi. Mais c'est juste que c'est un très bon exemple d'un détaillant qui cherche à attirer le consommateur dans son magasin pour augmenter son nombre de visites. Ce qui arrive, c'est quand on obtient une visite d'un consommateur, on cherche à le faire dépenser de plus en plus dans nos magasins. Puis ça vient avec des mauvaises habitudes comme faire des promos. On fait beaucoup de promos, ce qui fait en sorte que nos consommateurs se sont habitués d'acheter en spécial. Donc, au Québec, au Canada, on le voit, quand c'est en spécial, 80 % des foyers vont faire du stock-up. Donc, ça veut dire qu'ils vont en acheter beaucoup plus qu'ils en ont besoin, ils vont l'en geler, ils vont l'entreposer. Donc, très mauvaise habitude parce qu'on n'arrive pas à vendre nos produits à prix régulier à des consommateurs. Puis on le voit, là, si on descend, acheter des marques privées, ce qui expliquerait au Québec la croissance de certaines de vos catégories, utiliser des coupons, puis ainsi de suite. Donc, on incite le consommateur à ne pas payer le bon prix pour des produits. Juste pour vous donner une idée, pour les œufs, c'est 24 % des ventes qui se font en promotion. Promotion, là, c'est 6 % de rabais sur le prix régulier. C'est pas tant que ça, mais si on regarde ce qui se passe au Québec, c'est 37 % Ça, ça commence à être assez élevé. Ça veut dire qu'il y a un tiers des ventes d'œufs au Québec qui se font en promotion. Pas des bonnes nouvelles, autant pour les détaillants que pour les fabricants ou les producteurs. 27 % des familles québécoises vont toujours payer le prix le plus bas, donc vont attendre les promotions pour les œufs. Ça, c'est beaucoup plus élevé que le bacon, le fromage ou le yogourt. Donc vraiment, on s'en va dans une mauvaise tendance au niveau des œufs. Je n'ai pas la même donnée pour le poulet ou le dindon. C'est juste qu'on a un petit peu plus de difficulté à mesurer le taux de promotion, mais pour les œufs, nos données sont béton au niveau de la promotion. Donc, on le voit. Et puis, on le voit depuis la crise de 2008, le taux de promotion ne cessait d'augmenter jusqu'à il y a 6 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on voit, c'est que le taux de promotion a commencé à baisser dans le marché, ce qui est des super bonnes nouvelles. On le voit, là, c'est des 1 point de différence comparativement à l'année dernière, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de promotions dans le marché. Ce qui est des bonnes nouvelles pour des catégories, par exemple, comme les fish and chips, ça c'est moins important pour vous, mais le papier hygiénique, j'imagine tout le monde s'en sert ici, c'est quand même 73 % de promotion. Il y a pratiquement personne qui achète du papier hygiénique à prix régulier. Puis la pizza également, là, 71.
Ici Lionel Levac. En résumé, ce qu'affirmait le vice-président Est du Canada pour Nielsen au rendez-vous avicole de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, est que si les producteurs et les transformateurs jouent bien leurs cartes, ils peuvent conserver leur part de marché, peut-être même en gagner un peu. Toutefois, la montée des protéines végétales, si elle représente un défi plus important pour les viandes rouges, peut tout de même affecter les secteurs de la volaille et des œufs. Il semble que pour beaucoup, ce soit alors une question de marketing. Au revoir.